La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien bonjour, chers auditeurs, auditrices. Je suis Patrick Saporito de l'église baptiste de Toulouse Métropole, EBTM. Mercedes, fiancée à Edmond Dantès, attendait longuement et avec espoir le retour de son fiancé emprisonné à tort. À la fausse annonce de sa mort, elle décida de ne plus attendre et de se marier avec celui qui l'avait fait emprisonner par jalousie, ce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas non plus que, après 18 ans d'emprisonnement, Edmond Dantès était vivant et avait réussi à s'évader, bien décidé à préparer sa vengeance sous le pseudonyme du comte de Monte Cristo, étant devenu très riche entre-temps. Justice sera faite, mais Edmond et Mercedes ne se remettront pas ensemble. Ce célèbre roman d'Alexandre Dumas nous donne envie de dire « si seulement Mercedes avait attendu et n'avait pas cru à des mensonges ». Les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais aussi comme le Seigneur de leur vie, nous formons l'Église de Jésus-Christ. Et en tant que telle, l'Église de Jésus-Christ est fiancée à Jésus-Christ et est invitée à l'attendre dans la foi, l'espérance et l'amour, étant sûr de son retour, parce qu'il nous a dit lui-même qu'il reviendra. C'est écrit dans la Bible, parole de Dieu. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens en fait très souvent mention. Lisons dans 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4, verset 13, jusqu'au chapitre 5, verset 15. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Amen. Jusqu'ici donc la parole de Dieu. Ce texte parle du retour du Seigneur, qui est une certitude. Et nous verrons en quoi, premièrement, cette certitude est une espérance pour son Église, et deuxièmement, en quoi cette certitude transforme les vies et les relations dans son Église. Premièrement, voyons donc en quoi la certitude du retour du Seigneur est une espérance pour son Église. Il y a une anomalie dans notre existence, une anomalie à laquelle personne n'échappe. C'est la fin de notre existence sur Terre, c'est-à-dire la mort. Lorsque celle-ci touche un proche, elle engendre douleur et tristesse du fait de savoir qu'on ne reverra plus la personne, du moins ici-bas. La Bible explique très clairement pourquoi la mort. Elle est la conséquence de notre désobéissance à Dieu, ce que la Bible appelle le péché. Personne ne niera que tout le monde meurt. Ça veut dire que nous avons tous péché devant Dieu. Ce qui ne fait que confirmer ce que la Bible dit dans l'Épître aux Romains chapitre 3 verset 23, je cite « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et en Romains chapitre 6 verset 23, je cite « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur ». Fin de citation. La bonne nouvelle, l'évangile, est que Jésus a vaincu la mort par sa propre mort à la croix, lorsqu'il a pris la punition de nos fautes à notre place, et que 3 jours après, il est ressuscité. Pour cette raison, Jésus-Christ est la véritable espérance du chrétien. Alors les croyants peuvent se dire « On se reverra là-haut, après notre mort ». Relisons le verset 14 de notre passage. Je cite « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Fin de citation. Les morts en Christ sont dits endormis. C'est le même mot que mort. Le chrétien qui meurt va directement auprès du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 8 nous le dit. Attendant le réveil de la résurrection par Jésus. Du temps où l'apôtre Paul a écrit cette lettre, beaucoup de nouveaux croyants thessaloniciens sont morts du fait de la persécution qu'ils ont subie. Et l'apôtre Paul écrit cette lettre pour leur donner l'espérance, espérance fondée sur l'évangile de Jésus-Christ. Les morts en Christ ressusciteront par Jésus et avec Jésus. Quand aura lieu cette résurrection des morts? Personne n'en connaît la date. Mais le texte nous dit qu'elle se fera à un moment bien précis, c'est-à-dire celui du retour de Christ, au verset 16. Un événement majeur qui devrait nous inciter à l'attendre, parce que c'est une certitude, Jésus va revenir. Les disciples thessaloniciens savaient que Jésus va revenir et croyaient le retour du Seigneur imminent à cause des persécutions qu'ils subissaient. Et Paul leur écrivait pour leur annoncer une autre glorieuse vérité qui leur était restée inconnue jusque-là, celle de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront et Jésus lui-même les emmènera avec les croyants vivants à ce moment pour, je cite, « Être toujours avec le Seigneur », verset 17. Il s'agit de la première résurrection. Cette espérance est aussi une consolation à partager, comme le souligne le verset 18. « De revoir nos bien-aimés croyants, eux aussi, on se reconnaîtra là-haut. » Mais la plus grande joie pour le chrétien sera d'être en présence de Jésus lui-même qu'il verra de ses yeux. Voilà notre véritable espérance. Beaucoup se demandent quand reviendra Jésus. « Aucune importance », nous dit en substance Paul. Chapitre 5, verset 1 nous dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Fin de citation. Si le Christ n'a pas révélé de date aux apôtres, alors encore moins à nous, parce que le but n'est pas d'établir des dates, mais plutôt de se consoler et de vivre d'une manière sainte qui plaît au Seigneur, sans se relâcher en l'attendant. Voilà pourquoi cette lettre est toujours d'actualité plus de 2000 ans après. Paul illustre bien comment attendre le retour du Seigneur, par la foi, comme s'il revenait là, maintenant. Chapitre 4, verset 15, Paul nous dit, je cite, « Nous, les vivants ». Fin de citation. Paul croyait qu'il serait parmi les vivants au retour du Seigneur, et il était prêt à le rencontrer. Plus de 2000 ans après, le Seigneur n'est toujours pas revenu, mais sa promesse de son retour tient toujours. Et une bonne jauge de notre état spirituel est de savoir si son retour nous inquiète ou nous réjouit. L'attendons-nous avec espérance? Es-tu prêt s'il revenait ce soir? L'as-tu accepté comme ton sauveur et comme ton Seigneur? À quoi le Seigneur te trouvera-t-il affairé à son retour? Ceux qui veulent savoir quand le Seigneur reviendra ne vivent pas par la foi. S'ils connaissaient la date, ils vivraient autrement, attendant le dernier moment pour se repentir. Alors que la Bible dit que, je cite, « C'est aujourd'hui le jour du salut » 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Les non-croyants athées convaincus ne veulent pas croire à la résurrection de Jésus, fils de Dieu, et donc ne peuvent pas partager cette espérance de revoir leurs proches, même s'ils les aiment. Ce qui est une espérance et une consolation pour le chrétien sera au contraire une terreur pour le non-chrétien. Le non-croyant n'attend pas le Seigneur. C'est pour ça qu'il sera surpris quand il reviendra. Car, je cite, « le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit », chapitre 5, verset 2. Ce que Jésus lui-même avait annoncé en Matthieu, chapitre 24, verset 43. On a tendance à oublier que Christ est non seulement le sauveur des croyants, mais aussi le juste juge, le même qui séparera les brebis des boucs à son avènement, voir Matthieu, chapitre 25, verset 31 et 32. De savoir que Christ est aussi le juge est un réconfort pour le croyant. Ne croyons pas que Dieu est indifférent aux souffrances. Il est juste, et voilà une bonne raison supplémentaire de le louer. Dieu est un Dieu de justice qui fera passer toute œuvre en jugement. Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, aura sa juste rétribution. Ceux qui auront placé leur confiance en Christ pour le pardon de leurs péchés ont leurs péchés pardonnés, parce qu'il a pris la rétribution de nos fautes à la croix. Chapitre 5, verset 9 nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Mais les non-croyants recevront la juste rétribution de ce qu'ils méritent. Celui qui ne croit pas en Christ pour le pardon de ses péchés ne s'est pas réconcilié avec Dieu et demeure sous sa colère. Soit on est sauvé, soit on est sous la colère de Dieu. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Les récentes inondations et incendies ont montré qu'une ville peut être dévastée en quelques instants. Je ne dis pas que c'est un jugement. En tout cas, tout ce en quoi le non-croyant aura placé sa confiance et qui constitue son bien-être, sa sécurité, s'écroulera instantanément parce que le jour du Seigneur viendra, je cite, « comme un voleur dans la nuit », chapitre 5, verset 2. Paul met en opposition le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, veiller et dormir, pour bien marquer la différence entre la vie du croyant et celle du non-croyant. Ceux qui sont de la nuit sont ceux qui se détournent de la lumière et refusent de l'accepter. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Si vous avez fait l'expérience d'allumer une petite allumette dans une pièce sombre, elle suffit à éclairer toute la pièce et à chasser les ténèbres. Celui qui ne veille pas, qui n'attend ni n'espère le retour du Seigneur, se laissera surprendre, parce qu'il vit dans ces ténèbres, justement. Sa ruine sera soudaine, comme le jour chasse instantanément la nuit, et elle sera aussi inévitable que les douleurs de l'enfantement pour la femme enceinte. Le non-croyant veut ignorer la réalité de la mort, et même la fuir. Comment ? En se noyant dans les plaisirs, le divertissement, les loisirs, l'alcool, la drogue, les nuits d'ivresse. Où on se lâche pour oublier les tracas de la vie quotidienne, et surtout pour oublier et fuir la mort qui nous atteint tous. Mais ce jour ne surprendra ni n'effraiera les croyants, parce que nous vivons dans la lumière de Christ et que nous l'attendons. Paul dit des chrétiens au verset 5, « Vous êtes tous des enfants de la lumière. » Fin de citation. Nos vies devraient en témoigner. Deuxièmement, voyons en quoi la certitude du retour du Seigneur transforme les vies et les relations dans son Église. Paul exhorte aussi les chrétiens qui sont dans la lumière au verset 6. Justement parce que le retour du Seigneur sera soudain. Verset 6, je cite, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Fin de citation. C'est donc chaque jour que nous devons veiller à être vigilants contre le mal, contre le péché. Attention à la somnolence spirituelle, à ne pas nous endormir par un manque de sobriété, à ne pas nous enivrer non seulement de vin, mais des biens et des plaisirs de cette terre qui dépasseraient nos besoins. Cet endormissement spirituel serait synonyme non plus d'espérance céleste, mais d'une perte de la foi, et même de mort, la mort étant comparée à un endormissement. Mourir, dormir, c'est le même mot, au chapitre 4, verset 13. Mais Jésus a connu l'endormissement de la vraie mort à notre place, afin que, je cite, chapitre 5, verset 10, « soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Fin de citation. Comment nous tenir éveillés? C'est avec Jésus et ensemble, son Église, que nous allons être capables de vivre et de nous tenir éveillés. On peut reprendre la devise d'un autre roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, qui dit « un pour tous, tous pour un », cette fois en l'appliquant à l'Église de Jésus-Christ et à Christ. Christ pour toute l'Église pour Christ. Qu'est-ce que cela implique? Puisque les chrétiens, nous vivrons toujours avec lui ensemble, eh bien, vivons bien ensemble dès maintenant, nous édifions mutuellement, en étant des exemples les uns pour les autres. Verset 11, je recite, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Fin de citation. Vous avez remarqué que Paul ne craint pas d'en remettre une couche. Il dit que les Thessaloniciens font déjà ce à quoi il les encourage, à s'exhorter réciproquement, à s'édifier les uns les autres. Pourtant, il leur dit de le faire encore. Il les exhorte par l'encouragement en relevant leurs points positifs. Le mot « exhorter » dans ce verset 11 veut dire aussi « consoler ». En cette période de pandémie qui a mis des distances entre les gens, avec port du masque, etc., et où l'angoisse grandit avec la peur du lendemain et la crise économique, les relations humaines ont besoin d'être nourries, d'autant plus dans l'Église de Jésus-Christ. Si le virus est contagieux, eh bien un sourire ou une parole d'encouragement l'est aussi. Lorsque nous sommes arrivés sur Toulouse, ma femme et moi, nous avons été surpris de voir que les gens qui montent ou descendent du bus ont l'habitude de saluer le chauffeur. « Bonjour, au revoir, merci !» Vous ne voyez pas ça en région parisienne. Mais j'ose croire que si une personne se met à saluer les chauffeurs là-bas, d'autres passagers pourraient bien l'imiter. Avec ma femme, nous avons fini par faire pareil lorsque nous prenons le bus. Ne sous-estimons pas la valeur d'un petit signe d'attention envers un frère ou une sœur en Christ, par un coup de fil ou un simple SMS qui dit « Je pense à toi ». Le verset 11 nous dit « Exhortez-vous réciproquement ». N'attendez pas que ce soit toujours le pasteur qui fasse le premier pas. Tout à chacun dans l'Église peut consoler son frère ou sa sœur, et même encourager le pasteur et les responsables. D'ailleurs, le verset 12 suivant dit bien de prendre soin de nos conducteurs, d'avoir pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Pourquoi ? Parce qu'ils auront à rendre compte de leur œuvre qu'ils font dans le Seigneur Jésus. Et aussi parce que si la tête va bien, tout le corps ira bien. D'encourager les conducteurs retombera en bien sur toute l'Église et contribuera à la paix. Le travail des responsables est d'exhorter l'Église, selon le verset 12. Et le mot « exhorter » n'est pas le même mot qu'au verset 11, je cite « exhortez-vous réciproquement ». Et oui, pour les responsables, le mot veut dire « avertir ». Et le même mot est utilisé au verset 14 pour tout un chacun dans l'Église d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. De même, ce n'est pas uniquement le rôle des conducteurs d'avertir quelqu'un qui vit dans le désordre. C'est aussi l'affaire de tout un chacun, parce que l'Église de Jésus-Christ est une famille, la famille de Dieu. Attention, il ne s'agit pas de s'ingérer dans la vie privée de nos frères et sœurs par une curiosité malsaine, mais il ne s'agit pas de faire non plus comme si on n'avait rien vu, rien entendu quand on a eu connaissance de tels problèmes récurrents chez un frère ou une sœur. Il se peut que les responsables ne soient même pas au courant de ce problème, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de tout. Alors que faire quand on apprend avant le pasteur que quelqu'un vit dans le désordre, refuse de se soumettre à ce qui est clair dans la parole de Dieu? Quelqu'un qui est littéralement hors des rangs. Le dire au pasteur? On peut. Mais mieux vaut d'abord aller voir la personne pour l'avertir du risque qu'elle court si elle persiste dans son péché. Bien sûr, mieux vaut prier avant. Souvent, on ne sait pas comment s'y prendre pour reprendre quelqu'un dans l'Église, parce qu'on se dit qu'on n'est pas parfait soi-même. Mais c'est aimer l'autre que de l'avertir, sans condescendance, mais avec patience. Regardez les verbes utilisés dans ce verset 14, je cite « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Fin de citation. La parole de Dieu est réaliste dans nos rapports les uns avec les autres dans l'Église, parce que nous sommes tous en pleine transformation, je dirais même plus, nous sommes tous en chantier. Nous sommes à des niveaux de croissance différents, et personne ne peut se croire déjà arrivé. Quand on reprend quelqu'un, ce n'est pas pour se mettre plus haut que lui, ce n'est pas pour lui rendre le mal pour le mal qu'il ou elle a fait, mais c'est rechercher toujours le bien, son bien selon le verset 15. Si la motivation est de rechercher le bien de l'autre, ça devrait être plus facile d'aller le voir. Pas simple. Comment être capable à la fois d'avertir, de consoler, de supporter, d'être patient, parce que l'un ne va pas sans l'autre? Eh bien, c'est en regardant à Jésus, notre parfait modèle à imiter, qui avertit et appelle chacun à se repentir et à croire en lui. À Jésus qui est notre consolateur parce qu'il a vaincu la mort. Jésus qui supporte patiemment nos imperfections dans son amour pour nous et qui n'a pas rendu le mal pour le mal. Parce que Dieu veut notre bien et même le meilleur pour nous, faisons de même envers notre prochain, qu'il soit chrétien ou pas. Le non-croyant sera touché par une telle attitude faite au nom de Jésus dans notre société de plus en plus individualiste. Attendons Jésus dans la certitude de son retour, en regardant à lui et en l'imitant.
Apocalypse, chapitre 22, versets 12 et 13.
Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre, à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier